Premier jour, Vernon, où Guillaume a un dialogue fort docte avec Séverin l'herboriste.
Nous reparcourûmes la nef centrale et sortîmes par le portail où nous étions entrés. J'avais encore les paroles d'Hubertin, toutes ces paroles qui bourdonnaient dans ma tête. « C'est un homme bizarre, osais-je dire à Guillaume. C'est où il a été, sous de nombreux aspects, un grand homme. Mais précisément pour cela, il est bizarre. Ce sont les hommes petits qui paraissent normaux. Hubertin aurait pu devenir un des hérétiques qu'il a contribué à faire brûler, ou un cardinal de la Sainte Église romaine. Il a frôlé l'une ou l'autre perversion. Quand je parle avec Hubertin, j'ai l'impression que l'enfer, c'est le paradis regardé de l'autre côté. Je ne compris pas ce qu'il voulait dire. « De quel côté » demandai-je. « Eh oui, admit Guillaume, il s'agit de savoir s'il y a des parties ou s'il y a un tout. Mais ne m'écoute pas. » « Et ne regarde plus ce portail, » dit-il en me donnant une légère tape sur la nuque, alors que je me retournais, aimanté par les sculptures que j'avais vues à l'entrée. « Pour aujourd'hui, tu as été assez effrayé par tout le monde. » Tandis que je me retournais vers la sortie, je vis devant moi un autre moine. Il pouvait avoir le même âge que Guillaume. Il nous sourit et nous salua avec urbanité. Il dit qu'il se nommait Séverin de Santamerano et qu'il était le père herboriste, qu'il avait charge des bains, de l'hôpital et des potagers, et qu'il se mettait à notre service si nous voulions nous mieux orienter dans l'enceinte de l'abbaye. Guillaume le remercia et dit qu'il avait déjà noté en entrant le splendide potager qui lui semblait contenir non seulement des herbes comestibles, mais aussi des plantes médicinales, pour autant qu'on pouvait en juger à travers la neige. En été et au printemps, avec la variété de ces herbes, chacune ornée de ses fleurs, ce jardin chante mieux les louanges du Créateur, dit Séverin en guise d'excuse. Pourtant, même en cette saison, l'œil de l'herboriste voit à travers les branches sèches les plantes qui pousseront et peut te dire que ce jardin est plus riche que ne le fut jamais un herbier, et plus bigarré, pour superbe qu'en soient ses miniaturisations. Et puis en hiver aussi croissent les bonnes herbes, et j'en garde d'autres récoltées et prêtes dans les vases que j'ai au laboratoire. Ainsi, avec les racines de la petite oseille, on soigne les catarrhes. Et avec une décoction de racines d'altée, on fait des compresses pour les maladies de la peau. Avec la bardane, on cicatrise les eczémas. En triturant et en broyant le rhizome de la bistorte, on soigne les diarrhées et certains maux chez les femmes. Le poivre est un bon digestif. Le padage est parfait pour la toux. Et nous avons de la bonne gentiane pour digérer, et du glycyrrhiza, et du genièvre pour en faire de bonnes infusions. Le sureau, dont l'écorce sert à une décoction pour le foie, la saponaire, dont il faut laisser macérer les racines dans de l'eau froide pour le catarrhe, et la valériane, dont vous n'ignorez pas les vertus. Vous avez des herbes d'une grande diversité et propres à différents climats. Comment cela se fait-il ? D'un côté, je le dois à la miséricorde du Seigneur, qui a situé notre plateau à cheval sur une chaîne de montagnes, qui voit la mer au sud, et en reçoit les vents chauds, et au nord, la montagne la plus haute, dont il reçoit les baumes sylvestres. Et d'un autre côté, je le dois à la pratique de l'art, que j'ai indignement acquise par la volonté de mes maîtres. Il est des plantes qui poussent en climat hostile, si tu soignes leur terrain environnant et leur nourriture et leur croissance. « Mais avez-vous aussi des plantes uniquement bonnes à manger ?» demandai-je. « Mon jeune poulain affamé, il n'y a point de plantes bonnes à manger qui ne le soient aussi pour se soigner, si tu les prends dans une juste mesure. Seul l'excès en fait des agents de maladie. Prends la courge, elle est de nature froide et humide et apaise la soif. Mais si tu la manges gâtée, elle provoque des diarrhées et il faut resserrer tes viscères avec un mélange de saumure et de sénévé. Et les oignons, chauds et humides, pris en petite quantité, ils augmentent la puissance du coït, naturellement pour ceux qui n'ont pas prononcé nos vœux. En grande quantité, ils donnent des lourdeurs de tête, et il faut les contrecarrer avec du lait et du vinaigre. Excellente raison, ajouta-t-il avec malice, pour qu'un jeune moine en mange toujours avec parcimonie. Mange de l'ail, au contraire. Chaud et sec, il est bon contre les poisons. Mais n'exagère pas. Il fait expulser trop d'humeur du cerveau. Les haricots, en revanche, produisent de l'urine et engraissent, deux choses excellentes, mais ils donnent de mauvais rêves. Beaucoup moins cependant que certaines autres herbes, car il y en a aussi qui provoquent de mauvaises visions. « Lesquelles ? » demandai-je. Notre novice veut en savoir trop. Ce sont des choses que seul l'herboriste doit savoir, sinon n'importe quel inconscient pourrait se promener en administrant des visions, autrement dit, en mentant avec les herbes. « Mais il suffit d'un peu d'ortie, » dit alors Guillaume, « ou de roi-bras, ou de l'iribus, et on est protégé contre les visions. J'espère que vous avez ici de ces bonnes herbes. » Séverin regarda le maître à la dérobée. « Tu t'intéresses à l'herboristerie ?»« Fort peu, » dit modestement Guillaume. « J'ai eu autrefois entre les mains le Theatrum Sanitatis d'Ubukassin de Baldar, Aboulhassan al-Mukhtar ibn Botlan, ou Elukassim el-Imitar, comme tu veux. Je demande si on pourrait en trouver un exemplaire ici. Et des plus beaux, avec moult images de précieuses factures. » Loué soit le ciel et le De Virtutibus Herbarum de Platerius, celui-là aussi, et le De Plantis d'Aristote, traduit par Alfred de Saréchel. J'ai entendu dire qu'il n'est pas vraiment d'Aristote, observa Guillaume, comme on découvrit que le De Causis non plus n'était pas d'Aristote. En tout cas, c'est un grand livre, observa Séverin. Et mon maître en convint avec beaucoup de ferveur, sans demander si l'herboriste parlait du De Plantis ou du De Causis, deux ouvrages que je ne connaissais pas, mais dont je conclus, d'après cette conversation, qu'ils étaient de toute première grandeur l'un et l'autre. « Je serais heureux, conclut Séverin, d'avoir avec toi quelque honnête entretien sur les herbes. »« Moi, encore plus que toi, » dit Guillaume. « Mais ne violerons-nous pas la règle du silence qui, me semble-t-il, est en vigueur dans votre ordre ?» La règle, dit Séverin, s'est adaptée au cours des siècles, aux exigences des différentes communautés. La règle prévoyait la lectio divine, mais non l'étude. Et pourtant tu sais combien notre ordre a développé la recherche sur les choses divines et sur les choses humaines. Par ailleurs, la règle prévoit le dortoir commun, mais il est juste parfois, comme chez nous, que les moines aient toute possibilité de réflexion, même pendant la nuit, aussi chacun d'eux a sa propre cellule. La règle est très sévère quant au silence. Et chez nous aussi, non seulement le moine qui fait les travaux manuels ne doit pas converser avec ses frères, mais aussi celui qui écrit ou qui lit. Pourtant, l'abbaye est au premier chef une communauté d'hommes d'études, et il est souvent utile que les moines échangent les trésors de doctrine qu'ils accumulent. Toute conversation qui concerne nos recherches est jugée légitime et profitable, pourvu qu'elle n'ait pas lieu au réfectoire ou pendant les heures des offices sacrés. « As-tu eu l'occasion de t'entretenir souvent avec Adelme de Trente ?» demanda brusquement Guillaume.